France Musique. Musicopolis. Les concerts populaires de Jules Padeloup. Quelques jours après le premier des concerts populaires de musique classique d'octobre 1861, Hector Berlioz rencontre dans le Journal des débats. « Monsieur Padeloup, écrit-il, vient d'avoir une idée hardie dont le succès, peu vraisemblable, a dépassé toutes ses espérances. Il a voulu savoir quel serait l'effet produit par les œuvres des maîtres sur un auditoire à peu près inculte comme celui qui fréquente les théâtres du boulevard. » En conséquence, à ses risques et périls, il a loué le Cirque Napoléon. On y a élevé une estrade pouvant contenir une centaine de musiciens. Et là, il donne les dimanches à 2h des concerts populaires à bas prix dans lesquels on entend exclusivement les chefs-d'œuvre de Beethoven, de Mozart, de Weber, de Mendelssohn, enfin de la grande musique instrumentale de style. Des concerts populaires à bas prix pour l'auditoire à peu près inculte qui fréquente les théâtres du boulevard. Voilà comment Berlioz présente l'initiative du chef d'orchestre Jules Padeloup. La revue et gazette musicale est plus claire encore. On peut dire que la noblesse et le clergé siégeaient seuls à l'ancienne société des concerts. Le tiers-état n'y mettait pas le pied. C'est donc une espèce de 89 musical que M. Padeloup vient d'opérer en proclamant l'égalité des Français devant la musique. On peut dire que cette initiative des concerts populaires de Jules Padeloup est une première. C'est la première fois qu'on crée une institution de concert spécialement conçue pour ceux qui jusqu'ici n'avaient pas accès à la musique classique. Une première, certes, mais bien de son époque et bien préparée. En effet, si la révolution est complète et décisive, disent les critiques, c'est grâce à la société des concerts, à celle des jeunes artistes et aussi à l'instruction puisée dans l'enseignement des écoles communales, de l'Orphéon et de toutes les réunions chorales. Alors revenons un peu en arrière pour détailler tout ça. L'institution du concert symphonique a d'abord été élitiste. Dans les cours ou dans les salons de la haute société, seul un public très restreint, généralement aristocratique, y avait accès. Au XVIIIe siècle, avec le concert spirituel, le public s'élargit un peu, mais reste tout de même extrêmement réduit. La période de la Révolution, avec ses grandes festivités, est la première tentative de véritablement apporter la musique au plus grand nombre. Mais la musique composée tout exprès est plus fonctionnelle que vraiment artistique. Au début du XIXe siècle, certaines idées d'égalité et de fraternité commencent tout de même à faire leur chemin. il faut passer par l'éducation. En apprenant la musique, le peuple commencera à l'apprécier à sa juste valeur. Ce sont notamment les actions de Boquillon-Willem, qui réunit les élèves des écoles parisiennes pour leur apprendre à chanter, puis qui crée l'Orphéon, grand rassemblement de chorales qui vont prospérer au cours du siècle. Les orphéonistes sont environ 70 000 en France à l'époque où Padeloup crée ses concerts populaires. À la même époque où Boquillon-Willem apprend à chanter aux enfants des écoles, François Habeneck, violoniste et chef d'orchestre, lui, est guidé par l'idée que s'il y a une chose à partager, c'est la musique de Beethoven. Et qu'à cet effet, elle doit être travaillée, jouée et interprétée avec le maximum d'art possible. C'est dans ce but qu'il crée la Société des concerts du Conservatoire et qu'à partir de 1828, il donne une saison extrêmement suivie. Alors oui, suivi certes, mais la salle du conservatoire contient à peu près 1000 places et il y a environ 900 abonnés qui renouvellent leur souscription chaque année. Autant dire que ça n'est pas comme ça que le peuple va avoir accès à la grande musique. Dans mon petit historique de l'accès aux concerts au XIXe siècle, j'en arrive à présent au personnage qui nous intéresse aujourd'hui, Jules Padeloup, décrit par le musicologue Adolphe Julien comme « ce gros homme exubérant, lunatique et rageur, mais enflammé, sincère et convaincu ». Il fallait qu'il ait une personnalité très forte pour mener à bien toutes ses créations. Saint-Saëns, qui n'est pas un modèle de tendresse, trouvait à Padeloup de nombreux défauts. Notamment de diriger de façon pitoyable, d'être bourru, brutal et sujet à des enthousiasmes comme à des répulsions inexplicables. Mais selon Adolphe Julien, tous ses défauts disparaissaient dans la chaleur de l'action, dans cet amour passionné pour l'art qu'il communiquait à son orchestre, à ses auditeurs, et qui le transformait en une sorte de moine prédicant, d'apôtre illuminé de la musique classique. Avec des lacunes énormes dans son éducation musicale, avec une science très insuffisante pour approfondir toute la musique d'orchestre qu'il jugeait d'un coup d'œil et conduisait avec frénésie, avec une confiance démesurée en lui-même, il eut au suprême degré les qualités de chaleur, d'entrain, de courage et de conviction qui soulèvent les masses et dominent le public. Avant de se lancer dans l'aventure des concerts populaires, Jules Padeloup a déjà fait pas mal de choses dans le milieu musical. Premier prix de piano du conservatoire à 14 ans, il est obligé d'arrêter là ses études officielles pour gagner sa vie après la mort de son père. Il donne des leçons, il compose quelques valses et autres polkas, avant de devenir régisseur du Palais de Saint-Cloud, un poste peu musical mais grâce auquel il peut subvenir à ses besoins et qui lui permet de se faire beaucoup de relations. L'empereur et sa cour, le surintendant des Beaux-Arts et le baron Haussmann, grand amateur de musique, surnommé le baron mélomane. Thank you. Dans le Paris des années 50, 1850, dans le domaine de la musique, il y a l'opéra, l'opéra comique, le théâtre lyrique, puis tous les petits théâtres de divertissement qui proposent des opéras bouffes, opérettes et autres ouvrages dramatiques légers. Quelques privilégiés ont l'occasion d'écouter un peu de musique de chambre dans des toutes petites salles, et quelques autres, dont les 900 abonnés, assistent à la demi-douzaine de concerts symphoniques consacrés essentiellement aux classiques viennois, donnés chaque année par la Société des concerts du Conservatoire. Et c'est tout. On comprend dans ces conditions que les compositeurs français se tournent exclusivement vers l'opéra. Il n'y a aucun débouché à côté. Et pour le public, qui commence à se former, grâce au progrès de l'enseignement musical à l'école, rien de symphonique à se mettre sous l'oreille. C'est donc une sorte de nécessité vitale à laquelle répond Jules Padeloup en créant en 1851 la Société des jeunes artistes. La Société des jeunes artistes, créée par Jules Padeloup en 1851, va fonctionner pendant une dizaine d'années. Son orchestre est formé de jeunes musiciens, dont beaucoup sont premier prix du conservatoire. Ils jouent les classiques et les jeunes compositeurs. Les concerts sont donnés dans une petite salle, mal pratique, et le déficit se creuse année après année. Padeloup comprend qu'il faut faire autrement. Il joue le tout pour le tout. Pendant l'été 1861, le Cirque Napoléon, aujourd'hui Cirque d'hiver, boulevard des Filles du Calvaire, pas loin de la place de la République à Paris, a été aménagé pour accueillir au choix un spectacle de cirque ou un concert. Ce qui fait dire à un critique, n'est-ce pas chose heureuse que l'on ait compris à Paris la nécessité de construire des cirques pour les chevaux? Sans cela, nous n'aurions pas encore une vraie salle de concert. Padeloup loue la salle pour 100 000 francs pour 6 représentations et il se lance avec son orchestre le 27 octobre 1861. Pour attirer son public, le nouveau public de la musique classique, celui qui jusqu'ici n'avait aucun accès aux concerts, Jules Padeloup a mis le prix des places au plus bas. La Gazette musicale indique 2,50 francs pour les premières, 1,25 francs pour les secondes, 75 centimes pour les troisièmes. Le chroniqueur s'exclame « 75 centimes pour entendre Haydn, Beethoven, Méhul, Weber, Mendelssohn !» C'est une réussite totale pour Padeloup. Au bout de 3 concerts où il a attiré tout un public nouveau et divers au Cirque Napoléon, il peut louer le lieu à l'année et donner des concerts hebdomadaires jusqu'au mois de mai. La foule, écrit Berlioz, y est accourue avec empressement, avec passion même. Et l'on ne saurait, avant d'en avoir été témoin, se faire une idée du bonheur avec lequel ces 4 ou 5 000 auditeurs écoutent des ouvertures et des symphonies. Le silence est religieux et profond sur ces nombreux gradins circulaires occupés jusqu'au dernier. Un vaste murmure, rapidement comprimé, s'y élève seul parfois quand l'émotion musicale devient trop intense dans certains passages. Mais jamais d'interruption. On attend que la dernière note ait retenti. Alors seulement éclatent des acclamations et des applaudissements dont la sincère énergie est peu connue dans nos théâtres et dans nos salles de concert. Vingt ans plus tard, Adolphe Julien écrit « Si le public français actuel doit son éducation musicale à M. Padeloup, que ne lui doivent pas les compositeurs ? C'est grâce à lui que tous les jeunes musiciens français, actuellement dans le plein de leur gloire, ont remporté leur premier succès. » Telle est la force irrésistible d'une idée juste, éclose au moment favorable et s'appuyant sur un mot retentissant et justifié. Les concerts populaires. Populaires, ils le furent, en effet, et par leur but et par leur prix, par leur force d'expansion musicale et par le retentissement qu'ils obtinrent dans toutes les classes de la société. L'ouverture de Guillaume Tell de Gioachino Rossini, donnée au 2e des concerts populaires de Jules Padeloup. Ici, c'était The Hanover Band, dirigée par Roy Goodman. Le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Julien Bourdet pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.